Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial qui revient tout le temps, eu égard à son acuité, c'est la formation des ministres du culte islamique, imams, prédicateurs, aumôniers, cadres cultuels dans les associations, loi 1905, psalmodieurs aussi. Et pour évoquer ce sujet, qui relève parfois de la recherche fondamentale, mais aussi d'une approche pratique, j'ai plaisir à accueillir Ahmed Sfaxi. Ahmed Sfaxi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien-chercheur en sciences de l'éducation. Vous êtes aussi dans le domaine de la formation des adultes et vous vous êtes intéressé à ce sujet, celui de la formation des imams. Vous nous avez fait plaisir en venant une première fois à l'antenne et à ce micro même nous expliquer comment vous voyez la formation des imams. Mais après le discours du président de la République Emmanuel Macron parlant de la pression exercée sur le Conseil français du culte musulman pour former des imams labellisés, nous nous sommes dit que ce serait bien que vous nous éclairiez par vos propos et le produit de vos travaux.
Merci pour votre invitation.
Je vous en prie.
Dans un premier temps, oui, j'ai cru comprendre qu'il y a une première demande qui avait été faite au CFCM en février sur un projet de labellisation des imams et une nouvelle demande encore par rapport à un projet d'institut de formation des imams en France. Demande à laquelle ils ont répondu au mois de février. Ils ont rendu leur copie dans un journal, L'Opinion, je crois. Donc c'était quelque chose, la réponse ressemblait à ce qui existe dans l'enseignement catholique privé, qui a été privatisé après la loi 1905. C'est une demande qu'on connaît depuis longtemps, qui se répète, qui revient régulièrement. Moi, j'étais assez étonné, en fait, par rapport à la réponse, puisque Mohamed Moussaoui, en 2015, avait déjà présenté
Mohamed
un projet.
Mohamed Moussaoui étant le président actuel du Conseil français du culte musulman.
Tout à fait. Avait présenté quelque chose qui s'appuyait davantage sur l'institut Mohamed VI à Rabat. Et j'imaginais qu'ils présenteraient quelque chose dans cette continuité, puisqu'ils avaient annoncé explicitement leur projet d'étendre des antennes de cet institut en France. Donc je pensais qu'ils saisiraient l'opportunité pour développer ça.
Oui, nous verrons tout au long de l'émission toute cette problématique. Est-il judicieux de continuer à former les imams français en dehors du territoire français, ou est-ce que cette extension, via des antennes que vous avez évoquées, reste judicieuse?
Alors, cette question, pour moi, en tant que chercheur, il est difficile d'y répondre, et il a été nécessaire pour moi de prendre du recul par rapport à la controverse de la formation des imams elle-même, ce que j'appelle la problématisation, donc de cette controverse de la formation des imams en France, puisque dans mes travaux revenait souvent la question donc de la laïcité présentée comme obstacle à la formation des imams et qui a justifié justement ce recours aux imams détachés d'une part et puis aux différents accords avec l'Algérie, le Maroc, la Turquie, etc.
Et d'où vient l'obstacle du principe de laïcité? Ça sous-entend que la puissance publique ne forme pas elle-même directement des ministres du culte, mais l'obstacle viendrait d'où si ce principe est respecté?
Alors justement, cette question complexe, il m'a fallu une année pour essayer de la comprendre. J'ai dû faire une cartographie de cette controverse avant tout, et puis il m'a fallu recourir à l'analyse des points de vue des différents acteurs, les pouvoirs publics d'une part, leurs alliés musulmans, que je dirais représentants d'un islam gallican, ensuite les hiérarques musulmans, représentants de l'association musulmane, et puis les imams eux-mêmes.
Les pouvoirs publics ne parlent plus d'un islam gallican, Quand on parle d'un islam républicain et gallican, ça paraît oxymorique. Mais bon, oui. Vous adoptez le terme. Mm. Ahmed Sfaxi, pour le praticien chercheur que vous êtes, si nous faisons un peu ensemble de sociologie fondamentale ou de recherche fondamentale, vous-même avez dit pour la problématisation de cette question épineuse qu'il faut deux approches liées l'une à l'autre, qui est celle de la philosophie de l'éducation et celle de la sociologie de la traduction. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ces deux approches et ces deux notions ?
Justement, comme vous venez de l'illustrer, les pouvoirs publics, justement, ne parlent pas d'islam gallican. Et ce travail, justement, c'est qui a le droit de parler et qui a le droit de définir les choses. C'est ça, la sociologie de la traduction. C'est moi qui parle d'islam gallican. Personne ne parle d'islam gallican à part moi, dans ce travail.
Dans ce travail, oui. Parce que l'idée remonte à Jacques Berck déjà, on pourrait la trouver ailleurs, mais Jacques Berck en était le premier à avoir parlé avec force d'un islam gallican.
C'est bien ce que je dis dans cette étude, et c'est là-dessus que je m'appuie. Cet islam gallican est justement s'inscrit dans la continuité d'une laïcité gallicane. L'État va défendre les catholiques français vis-à-vis du Vatican, et dans cette continuité, il va défendre les musulmans français dans l'idée de Jacques Berck qui veut en fait inscrire l'islam français dans l'islam des Lumières qui va éclairer le monde, musulman compris. Et il y a en fait des fonctionnaires qui travaillent au bureau des cultes notamment, comme Didier Lesky, comme Bernard Godard, d'autres personnes dont j'ai analysé les écrits comme Hakim El-Karoui. Donc on parle d'un corpus d'un millier de pages analysé sur cette cartographie des controverses. Donc là, j'ai dû sélectionner un certain nombre d'acteurs pour cette première partie. Et ces gens-là, j'ai considéré qu'ils s'inscrivaient donc dans la matrice de Jacques Berck et la Fondation de l'Islam de France, dans justement l'islam gallican, et qui est l'islam voulu par les pouvoirs publics.
Si je vous suis, Ahmed Sfaxi, le gallicanisme ici serait le fait de s'affranchir de toute autre ombre tutélaire étrangère pour amoindrir, sinon tarir, l'influence de ces puissances étrangères qui seraient et qui sont une atteinte à la souveraineté de l'État français.
Tout à fait, et promouvoir un islam des Lumières en France.
Derrière... Et éclairera les contextes islamiques ailleurs.
Tout à fait. Derrière lequel se rangent nombre d'intellectuels musulmans français, notables français. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'acteurs où il y a des hiérarques musulmans, des présidents d'associations musulmanes françaises. Et enfin, un troisième groupe d'acteurs où il y a des imams. La difficulté, pour moi, c'est qu'en tant que chercheur, non impliqué dans le monde associatif, je n'ai pas accès à des données de l'intérieur. J'ai dû travailler sur les données publiques.
Vous avez préféré dire « actant » que de dire « acteur ».
J'ai des acteurs et j'ai des actants. Je suis dans une approche structuraliste, de toute façon. Par moment, acteur, je le conserve par rapport à Michel Calon, qui préfère ce terme. Donc le sociologue de la traduction...
Dès 1986.
Oui. Alors que je préfère parler de formation des imams comme un actant. Mais effectivement, pour des raisons méthodologiques, j'ai préféré garder le terme acteur bien souvent. Mais effectivement, pour moi, la formation des imams est un actant. Mais en l'occurrence, pour les acteurs, j'ai analysé plutôt des corpus des écrits d'Ahmed Djabala, des gens comme...
Alors qui est Ahmed Djabala ? Enfin, nous le connaissons ici, oui. Mais c'est pour nos amis auditeurs.
Alors Ahmed Djabala, c'est le directeur de l'Institut, l'IESH, alors l'acronyme...
L'Institut européen des sciences humaines.
Des sciences humaines, donc à Saint-Denis. C'est un imam d'une mosquée à La Courneuve. C'est également une figure c'était, je ne sais pas s'il exerce toujours des responsabilités au sein de l'OUIF, mais il a été directeur sur certaines périodes pendant quelques années.
Il était président de cette organisation, maintenant elle ne s'appelle plus
UOIF,
l'Union des organisations islamiques de France.
Mais
plutôt Musulmans de France depuis 2017.
Il est membre du Conseil européen de la Fatwa, mais dans ma matrice des acteurs, il apparaît comme une figure importante de ce mouvement en tant que hiérarque musulman en France. Il y a également dans ces hiérarques, dans ce groupe d'acteurs-là, Monsieur Zegag, qui est plutôt rattaché au Maroc, qui est directeur de l'Institut Avicenne dans le nord de la France.
C'est Béchari.
Béchari, pardon, oui, c'est ça, Monsieur Béchari.
Il s'agit de l'Institut Avicenne des sciences humaines.
Voilà.
Ce qui le différencie de l'autre, c'est simplement le A dans l'acronyme. L'autre, c'est l'Institut européen des sciences humaines, et celui-ci, c'est l'Institut Avicenne des sciences humaines.
Voilà. Qui est donc quelqu'un qui était très actif à un moment au niveau politique de l'islam marocain au sein
de la FNMF, qui est la Fédération nationale des Marocains de France.
Des musulmans de France, voilà. Donc il y a beaucoup d'acronymes dans cette étude. Moi, ce que j'ai regardé, c'est des milliers de signes et de pages de discours que j'ai analysés pendant une année. Il y a un troisième acteur dont j'ai oublié le nom. Pour moi, c'est aussi une accumulation de signes, de pages et d'analyses de discours. Ensuite, le troisième groupe, c'est les imams. Donc, je suis pas tenu à l'anonymat puisque c'est données publiques et c'est toujours des gens qui refusent de me rencontrer. Donc, voilà. Donc, il y a Ahmed Mikhtar dont j'ai analysé le discours, qui est un imam du nord de la France.
C'est celui qui a fait des études dans l'histoire de l'art, et y compris des arts plastiques.
Oui.
Et il dit toujours qu'il cumule sa formation et qu'il enrichit d'être un fin connaisseur, un historien de l'art, tout en étant un théologien.
Tout à fait. Tout à fait. Un parcours très, très intéressant. Abdel Naïm Boussena.
Abdelmounaïm
Boussena, qui lui est un récitateur du Coran, doublé d'un parcours d'ingénieur.
Fils d'un imam.
Fils d'imam, formé à Médine. Parcours très très intéressant également. Donc moi, pour moi, les imams sont plus des parcours de formation que des noms, en fait. Un autre qui est formé par un soufi syrien à Damas, qui a un parcours en lettres. Un troisième qui est un fils d'imam aussi du nord de la France, qui lui a été formé plutôt en France. Donc c'est les parcours que j'ai analysés. Puis suite à cette analyse, en fait, je me suis demandé comment ces gens-là problématisaient, c'est-à-dire construisaient leurs problèmes par rapport à cette controverse sociopolitique de la formation des imams en France. Ces trois groupes d'acteurs, en fait, j'ai comparé leur façon de se construire par rapport à l'actant qu'est la formation des islams en France. Et les acteurs.
La formation des imams.
Des
en
imams.
France. Des islams qui en est au pluriel, c'est aussi une réalité, mais là il s'agit des imams. Et comment leur avez-vous appliqué la méthode, l'approche, la vision de la sociologie, de la traduction?
Alors, c'est une construction originale que je fais dans ce travail. C'est deux modes de problématisation que j'ai dû associer, un macro-sociologique et un micro-sociologique. Que j'ai dû confondre. Je vais essayer d'être le plus simple possible, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. J'ai divisé leurs discours par thématique, et j'ai analysé leurs discours par thématique. Ensuite, par rapport à ces thématiques, j'ai essayé de trouver des recoupements, et j'ai trouvé que ces discours se recoupaient. J'ai cherché les points communs par rapport à l'enrôlement, c'est-à-dire l'adhésion, on va dire, et la dissidence. J'ai identifié que deux groupes se retrouvaient, c'est-à-dire le groupe des premiers, les pouvoirs publics et leurs alliés, sur la laïcité ou l'islam gallican. Un, de façon explicite, les pouvoirs publics et leurs alliés sur l'islam gallican, et un, de façon implicite, les hiérarques musulmans. Ce qui faisait qu'il était impossible qui puissent continuer ensemble et qui était une des raisons du blocage dans la communication. qui faisait que les pouvoirs publics, depuis tant d'années, disaient que le dialogue était impossible et qu'il était indispensable pour eux de trouver de nouveaux interlocuteurs. Le premier groupe cherchant à remplacer les hiérarques musulmans par une nouvelle génération d'intellectuels musulmans.
Parce que ces hiérarques, comme vous les présentez, n'adhéraient pas directement ou publiquement au principe de laïcité, ou y adhéraient d'une manière implicite et les choses ne sont pas claires.
Aristote insiste sur une éthique de la prudence. En problématisation, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Le relativisme
l'essentialisme.
On peut dire ça comme ça. On va le dire comme ça. La rationalisation.
Pousser à l'extrême.
Disons qu'on cherche le raisonnable et pas le rationnel. Parce que le rationnel va pousser à la technocratie. Et l'exemple de la technocratie, en l'occurrence, une illustration, est la multiplication, justement, de la production de données. L'exemple que je donne dans mon étude, la multiplication des DU, par exemple. On va produire des données pour éviter de s'attarder sur le problème.
Solimit sini sumum salli irhamni ghina ili ajlak ali ajlak ya rab صمتي لأجلك لأجلك يا رب.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Nous nous intéressons aujourd'hui, j'ose dire encore une fois, à ce sujet crucial qu'est la formation des imams, mais pas uniquement, des cadres religieux, des prédicateurs, des aumôniers, des responsables des associations cultuelles. Vous vous y êtes intéressé, vous, Ahmed Sfaxi, comme praticien-chercheur, spécialiste des sciences de l'éducation et notamment de la formation des adultes. Vous étiez en train de nous parler de cette recherche fondamentale et de la problématisation de cette question, et vous l'avez abordée doublement, à la fois par la philosophie de l'éducation, mais aussi et surtout par la sociologie de la traduction, chère notamment à Paul Ricoeur. Alors, je vous ai interrompu parce que vous étiez en train de nous passer en revue les quatre axes. Il y a l'enrôlement, il y a la notion d'adhésion et de dissidence, et vous nous disiez que, chez Aristote, il y a une éthique de la prudence qui pousse à éviter deux excès, le premier étant le relativisme, et l'autre excès étant le pousser la rationalisation jusqu'au bout.
Le relativisme est l'excès du second groupe. Le premier groupe, les pouvoirs publics et leurs alliés, sont rationnels explicitement. Ils prônent un islam des Lumières. ils tiennent ce discours rationnel, l'appliquent de façon technocratique. Le second groupe tient un discours qui est implicite et qui est irrationnel, d'où l'impossibilité de communiquer.
Selon vous, pourquoi tiennent-ils ce discours? Parce que leur capacité intellectuelle les a mis dans cette situation, ou c'est délibéré?
Le relativisme découle d'une manière d'argumenter qui va amener la décision à un débat d'opinion qui va rendre la discussion impossible et la rendre irrationnelle. Donc vous avez une discussion entre des gens qui ont un argumentaire qui est rationnel d'une part et des gens qui ont un argumentaire irrationnel d'autre part.
Et donc ils ne peuvent pas se retrouver.
C'est complètement impossible. Le troisième groupe, les imams, eux, ont un éthos qui, lui, est celui d'une laïcité ouverte. Alors, attention, mon approche est toujours celle de j'analyse du discours, donc le discours n'est pas le réel, bien entendu. Ce discours d'une laïcité ouverte, comme dirait Jean Bobéro, avec d'autres mots, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, pardonnez-moi l'expression.
Enfin, je vous en prie, simplement je vois aussi que vous-même ajoutez une épithète à laïcité. Bien si sûr. Elle est ouverte, ça sous-entend qu'il y a un antonyme qui prévoit qu'elle pourrait être fermée.
Bien sûr. Je suis qu'un modeste chercheur. J'ai accès qu'à un petit bout de la réalité. Ça reste toujours des hypothèses et qui demandent à être contredites ou vérifiées par notre recherche.
Et nous vous en savons gré de venir nous donner le fruit de vos travaux. Et alors, ce troisième groupe tient un discours dans le cadre d'une laïcité, dites-vous, ouverte. Et leur discours est conforme à leurs actes ou ils agissent en naviguant entre l'excès de relativisme d'un côté et l'excès de rationalisation de l'autre?
Alors, le discours n'est jamais conforme à l'acte, par définition, mais les imams, dont j'ai analysé le discours, sont enrôlés en problématisation, on appelle ça un réseau de problèmes, dans les problématisations des deux autres groupes d'acteurs. Et c'est le résultat de la recherche, d'ailleurs. Et ce qui contredit, justement, le discours des pouvoirs publics de ces 40 dernières années, et qui dit que le problème de la formation des imams n'est pas un problème fermé, mais un problème ouvert. Parce qu'il montre que il y a solution, il y a probablement possibilité de discussion, puisqu'ils sont enrôlés dans les problématisations des deux précédents groupes d'acteurs, mais qu'en plus de ça, et d'où ma nécessité en fait de cumuler deux approches de la problématisation, celle de Michel Calon et celle de Michel Fabre, en plus de mobiliser la méthodologie de l'analyse du discours de Denis Lemaître, c'est que, en plus, ils ont des préoccupations microsociales qui sont celles de la reconnaissance, parce qu'ils ne sont pas opposés à une laïcité gallicane, et c'est pour ça qu'ensuite je mobilise le terme islam gallican, c'est que il permet une fonctionnalisation des imams, et ils ont un discours qui est beaucoup plus terre-à-terre, pragmatique, par rapport à la reconnaissance professionnelle, que n'ont pas les deux premiers groupes d'acteurs. Et ils ont une attente par rapport à leur émancipation. Ils ont un discours autour de l'empowerment, c'est-à-dire leur réussite professionnelle.
Ahmed Sfaxi, j'ai toujours appris qu'en mathématiques ou en sciences, on ne peut résoudre les problèmes que lorsqu'une fois ils sont fermés. C'est la fermeture du problème qui permet sa résolution. Avoir autant d'équations que d'inconnues est un exemple de fermeture d'un problème. En revanche, là, si je vous suis bien, ouais, le fait de dire que le problème est ouvert, c'est là où il y a des perspectives de solution. Mmh. Donc en sociologie, notamment la sociologie de la traduction, ce n'est pas comme en sciences exactes. D'une part. D'autre part, je n'ai pas tout à fait compris en quoi le discours n'est jamais, presque par essence, intrinsèquement conforme à l'acte. Et si c'est le cas, comment faut-il faire pour réduire l'écart entre le discours et l'acte? J'ai conscience que je vous ai posé deux questions en une seule, mais nous avons le temps pour y répondre.
Alors le discours n'est pas le réel, c'est un parti pris épistémique qui vient de Foucault.
Qui ne soit pas le réel, certes, mais pour approcher l'acte afin qu'il soit le plus proche possible, c'est une démarche éthique.
Je ne pense pas.
Très bien.
Je ne pense pas.
C'est vous le praticien chercheur. Moi, je ne fais que poser des questions. Donc, c'est un postulat épistémique.
Tout à fait.
Qui fait que le discours n'est pas conforme à l'acte.
C'est ça. C'est l'opposition entre le positivisme et le constructivisme.
C'est un peu comme la carte n'est pas le territoire. Mutatis mutandis.
On pourrait dire ça, mais c'est l'opposition entre le positivisme et le constructivisme. Les positivistes vont être d'accord avec vous, les constructivistes non. Les constructivistes non, tout simplement. Donc c'est un débat épistémologique, donc sans fin.
Donc dans le cadre de votre recherche, Ahmed Sfaxi, vous partez de l'idée que le discours n'étant pas l'acte, de toute façon, vous ne vous attendez pas de la part de ces acteurs qu'il y ait une conformité entre le discours et l'acte, et vous en tenez compte et vous continuez votre recherche.
Tout à fait. À partir du moment, en fait, où moi j'ai affaire à des imams qui sont des professionnels du discours, et que de toute façon, mon accès au terrain fait que je n'ai pas accès à leur activité et aux personnes, j'ai pris le parti de me dire que de toute façon, le discours n'était pas le réel. D'où mon approche structuraliste et l'approche qui fait que j'analyse le discours comme un matériau discursif et non pas comme la réalité qui est l'activité à laquelle j'ai pas accès.
Ahmed Sfaxi, quel aurait été dans ce cas l'acte idéal, ce qui est attendu d'un imam, et quel est en l'espèce son discours?
De quel imam on parle?
Quel qu'il soit, des imams, alors au pluriel, un imam que j'ai pris d'une façon indéfinie. C'est-à-dire que puisqu'il y a un écart, en tout cas, ou non-conformité entre le discours et l'acte, quel serait l'acte attendu et quel est le discours qui ne va pas avec?
L'acte attendu, il faudrait qu'il y ait un référentiel. Je ne peux pas être prescripteur en tant que chercheur. Il faudrait qu'il y ait un référentiel, il faudrait qu'il y ait un réel, il faudrait qu'il y ait un souhaitable. Et qui peut dire le référentiel? Certainement pas moi.
Mais l'idée générale, c'est d'avoir des imams, vous l'avez dit, fonctionnarisés, ou en tout cas bien, bien heureux dans leur vocation, c'est plus si c'est une vocation ou une profession, qui ont une garantie d'emploi, qui puissent avoir en tout cas une couverture sociale, qui soient épanouis dans cette profession.
Tout à fait.
Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a du bénévolat, il y a des vocations, il y a aussi des volontés d'avoir un ascendant moral sur les fidèles. D'autres sont des idéologues. Que sais-je encore? C'est vous qui travaillez là-dessus. Donc, ce serait le souhaitable ou du moins le réel ou les actes que nous sommes en droit d'attendre de la part des imams en France.
Sur l'évaluation, oh, d'accord.
Et leur discours?
Alors, on répondra après sur la question du problème fermé.
Oui, oui.
Alors, donc là, par rapport à l'évaluation, alors effectivement, certains seraient d'accord pour être fonctionnarisés. Quelle serait la contrepartie? Je ne sais pas, parce qu'il y a tout un discours par rapport à l'émancipation. Et en même temps, j'entends un discours qui dit que l'imama, c'est pas seulement le cultuel. Avec le social comme mot d'ordre. Et comme dirait Hannah Arendt, le social, c'est le politique qui dit pas seulement son nom. Pardon, c'est le social qui dit, c'est le politique qui dit pas son nom. Donc, quelle est la contrepartie ? Ces mêmes imams nous parlent de sciences humaines. Ils sont d'accord pour les sciences humaines. Mais les sciences humaines, bien sûr, il y a le mot. Donc l'analyse du discours, dire oui, les sciences humaines, on parle d'islam des Lumières en ce moment, on veut faire des sciences humaines, on veut certifier tout ça. D'accord, ils vont faire des sciences humaines, mais l'islamologie, bon, c'est une science des religions, ils vont apprendre les sciences humaines, mais est-ce que ça va pas être une apologétique cachée ?
Pour quelle idée, quelle apologie de la civilisation islamique, de la théologie islamique, de...
Je sais pas. C'est une question. Justement, vous me disiez tout à l'heure le problème fermé.
Ben nous, on y revient.
Justement, la sociologie de la traduction, on va chercher un traducteur. L'imam se pose comme acteur réseau. Quand on cherche un traducteur, les traducteurs, comme par exemple les hiérarques, où chaque personne qui va essayer de se poser comme traducteur va essayer de s'imposer dans une relation duale pour exclure les tiers et se poser comme porte-parole. Et justement, le but de fermer le problème, c'est de se poser comme unique traducteur dans une relation duale. Ma problématisation et ma construction méthodologique présentent justement un modèle où j'arrive à exclure la relation duale et ouvrir le problème sur un tiers. Et j'arrive à créer des combinatoires par ma méthodologie. Et proposer un modèle qui peut amener à envisager une société communicationnelle et rejoindre des modèles d'Habermas, par exemple. Et effectivement, on pourrait, il me semble, sortir de l'ornière de cette façon, à condition de le vouloir.
Oui. Si vous pouviez nous donner un exemple, c'est au lieu qu'il y ait une relation duale, vous l'ouvrez à un tiers, si je vous suis, on a l'imam, on a éventuellement les pouvoirs publics dans cette relation duale, et le tiers serait qui ?
C'est justement aux différents protagonistes de le choisir. Mais ça demande justement de réintroduire la notion de prudence dans cette relation, qui a été évacuée dans cette problématisation jusqu'à présent.
Bien, Ahmed Sfaxi, qu'est-ce qu'on entend par labellisation des imams ? Labelliser comment est-ce que dans vos travaux, cette notion de labellisation est présente ?
Alors, c'est plutôt quelque chose qui relève de la pratique. Donc, c'est plutôt quelque chose qui relève de mon métier, plus que de mes recherches. C'est quelque chose de central. C'est ce qu'il y a de plus technique dans la formation, l'évaluation. C'est la première chose qu'on fait, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup pensent que l'évaluation arrive à la fin. Pour un professionnel, c'est ce qui arrive en premier. Je vous parlais tout à l'heure de réel et de souhaitable. Dans l'évaluation, on parle de référent et de référé. On fait les indicateurs et les critères en premier. Ben, il faut un référentiel. Si j'ai fait de la recherche, c'est parce que quand je suis arrivé en master, j'ai dû hésiter entre le master professionnel et le master de recherche. Je me suis dit, ben, écoutez, comme moi je suis un professionnel et que je forme des gens par 6 000, par 10 000 dans les grandes entreprises, c'est pas 2 000 imams qui vont me faire peur. Donc, bon, on va régler le problème rapidement parce que ça commence à me fatiguer. Et puis à la fin de mon master, je me suis dit, ben, visiblement, il y a un vrai problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réfléchi à la question, donc on va y réfléchir. Et donc, il faut faire de la recherche fondamentale avant de solutionner. Parce que l'évaluation, la pratique, ben, ça demande d'abord de réfléchir au problème. Donc cette évaluation, elle s'impose parce que labelliser, certifier, ben, ça demande qu'avant, on ait pensé des référentiels. Et pour les penser, il faut organiser la profession. Pour l'organiser, ben, il faut penser justement, il faut penser des choses comme les statuts, il faut penser des choses comme les compétences, il faut penser des choses comme les certificats, il faut penser des choses comme la professionnalisation de la formation, la professionnalisation des savoirs, la professionnalisation des formateurs, autant de choses qui n'existent pas, puisque quelles que soient les organisations, quelles que soient les injonctions au professionnalisme, il n'y a pas de professionnel de la formation au BCC. Il n'y a pas de professionnel de la formation.
Le BCC étant le bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur.
Il n'y a pas de professionnel de la formation au CFCM. Il n'y a pas de professionnel...
Et le CFCM étant le Conseil français du culte musulman.
Il n'y a aucun professionnel de la formation qui s'occupe de la formation des imams en France. Thank you.
عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار وثار عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار وثار غار وثار علي وثار عليك فماذا صنعت لهم يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم يا أبي يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le praticien chercheur Ahmed Sfaxi en sciences de l'éducation et spécialiste de ces sujets, notamment la formation des adultes et l'intérêt qui est le vôtre, Ahmed Sfaxi, pour la formation des imams. Vous nous en parlez parce que ce sujet revient fréquemment et il faut le résoudre pour avoir en France un islam apaisé, construit, intelligent, rationnel. Alors vous dites à quelques reprises un islam des Lumières, un islam en tout cas d'intelligence. Peut-être pas d'excès de rationalité, puisque ou de rationalisation, je l'ai compris, ce serait même un excès, mais ce n'est pas une raison pour avoir un excès de relativisme. La situation médiane, je ne sais même pas comment vous allez la définir.
Je ne sais pas non plus, je continue à chercher.
Bon. Nous sommes au pays de Descartes, la rationalisation, c'est même un point à l'horizon. Ahmed Sfaxi, vous nous avez parlé de ces quatre axes de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par enrôlement ? Un des axes, l'enrôlement.
Ouais. L'enrôlement, c'est pas la définition orthodoxe de Michel Calon, mais c'est faire adhérer l'autre à sa façon de voir les choses.
Le deuxième axe est celui de l'adhésion et de la dissidence.
Alors la dissidence, c'est quand le groupe n'adhère pas à sa façon de porter le message, de porter la parole. Donc ce qui risque peut-être d'arriver là, ce qui peut arriver. Un exemple dans ma recherche, les imams adhèrent par exemple au discours des deux groupes d'acteurs que sont les pouvoirs publics et leurs alliés et les hiérarques musulmans par rapport au thème de la sécurité vis-à-vis de l'islam ou des imams, l'islam étranger ou les imams détachés, qui sont des concurrents économiques pour les imams en France et qui sont pour les pouvoirs publics également indésirables.
Si je vous comprends bien, Ahmed Sfaxi, l'intérêt des imams français, les nationaux, c'est d'avoir de moins en moins d'imams détachés, tout simplement parce qu'il y a concurrence sur le marché de l'imamat.
Notamment.
Alors que pour les pouvoirs publics, c'est une question de souveraineté nationale. Ils font finir avec ces imams détachés qui, le plus souvent, ne sont pas imprégnés des valeurs de la République, de l'héritage français, culturel, et de son histoire, de son patrimoine. L'intérêt, c'est plutôt de former et d'avoir in situ, sur le plan national, des imams tout simplement français, imprégnés des valeurs françaises.
Mais ce qui n'empêche pas les pouvoirs publics d'annoncer la fin des imams détachés et puis de les faire rentrer par la fenêtre une semaine après.
Oui, mais l'annonce est sur 4 ans, ça va en siffler. 4 ans, c'est relativement proche dans la... dans l'âge des États et des nations. Donc, à moins que vous, vous avez d'autres éléments que nous n'avons pas, on ferme la porte du détachement et on ouvre la fenêtre...
De 5 centres de formation d'imams algériens. Donc,
en France ?
En France, bien entendu. La Grande Mosquée de Paris ouvre 5 centres de formation. Donc là, il y en a un qui a ouvert cette semaine à Marseille. Donc l'Institut Razali donc dirige maintenant 5 centres de formation, alors qu'ils ont renvoyé donc officiellement les imams détachés. Donc un a ouvert aux Mureaux en février, la semaine de l'annonce du président Macron à Mulhouse qu'on mettait fin aux imams détachés. Donc voilà, il y a eu une incohérence.
Quelle est l'affluence de ces filiales d'instituts ?
L'influence ou l'affluence ?
L'affluence d'abord des étudiants ou des apprentis imams.
Alors, d'après ce que je sais, elle n'était pas importante à l'Institut Razali à Paris depuis 1983. Visiblement, elle semble pas l'être à Marseille, la porte d'Aix, cette semaine, pour celui qui vient d'ouvrir.
Alors,
on verra pour Lille, oui. On verra ensuite, pour les autres.
Mais pour l'IESH, l'Institut Européen des Sciences Humaines, c'est 1500
C'est 1500, c'est ça, c'est 1500 pour l'IESH. Le Maroc, pareil, ils font partie du lot des imams détachés renvoyés, mais ils viennent de racheter donc la Grande Mosquée d'Angers. Donc, pour moi, ça pose question, parce que ça peut ressembler à un discours, à un message contradictoire. Et effectivement, les décisions sont prises pour une certaine durée. Après, il faut voir comment ça s'inscrit dans le temps, parce que...
D'accord. Ça, tout ça, c'est... On est sur le sujet labellisation, fonctionnarisation. Mais ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Nous sommes dans un État laïque. Alors, quand vous parlez d'imam fonctionnarisé, c'est-à-dire qu'il est employé, il est salarié de l'association cultuelle qui dirige la mosquée.
On parle de qui ? Des imams
Donc, de l'imam tel que vous souhaitez qu'il soit en France.
Non, moi je ne souhaite pas du tout que les imams soient fonctionnarisés, attention.
Non, je n'ai pas dit, vous avez utilisé le terme et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on entend par fonctionnarisé.
Non, c'est un discours d'imam que j'ai analysé dans le cadre de ma recherche sur la controverse de la formation des imams.
Eux-mêmes souhaitent être fonctionnaires.
C'est des discours que j'ai analysés.
Ils ne le pourront pas en vertu de la loi de 1905.
La laïcité gallicane ne l'empêche pas.
Dans les départements concordataires. Pour les aumôniers, ça pourrait s'entendre dans une certaine mesure, mais pour les imams tout court.
Ce que je disais par rapport à ce travail, c'est que la controverse de la formation des imams en France, c'est un discours d'imam que j'ai relevé dans les thèmes de ce travail de recherche, qui m'a étonné moi-même, parce que moi-même, après, je suis allé rechercher justement dans les écrits de Jean Bobéro.
Vous avez dit que la laïcité gallicane ne l'empêche pas. J'aimerais bien comprendre comment, puisqu'il ne peut pas y avoir, toujours en vertu de la loi de séparation, une immixtion directe, ou en tout cas encore moins l'État qui salarie les ministres du culte, de quelque culte que ce soit, a fortiori en ce qui nous intéresse maintenant, les imams. Sinon, ça aurait été fait depuis longtemps. Ça l'a été pour l'Algérie coloniale et c'était un drame.
Jusqu'en 60.
Mais en tout cas, en respectant les lois de la République, ça ne sera pas possible.
Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai pu voir moi en regardant les textes, ça me semblait possible si la laïcité gallicane était appliquée stricto sensu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, pourriez-vous nous définir qu'est-ce qu'on entend par laïcité gallicane?
Je suis pas expert en laïcité gallicane. Il faudra que je cherche les textes et éventuellement que je vous les donne.
Dans l'histoire, le gallicanisme, c'était le fait de s'affranchir. Allez, pour faire simple, moi non plus.
Du Vatican, etc. Et que la France protège les catholiques français du Vatican, assure leur sécurité par rapport à ça. C'est ce que j'avais vu. Mais voilà, je suis pas en mesure de rentrer dans les détails aujourd'hui.
Oui, mais
sur
que je
tous
sache,
les articles,
la République ne salarie pas les clercs catholiques.
On est tout à fait d'accord.
Et donc elle ne pourra pas, en vertu de l'égalité devant la loi, le faire pour d'autres clercs.
En tous les cas, ce qu'il m'apparaît, moi, c'est que il y a des gens qui sont disposés à
définir un nouveau concordat,
à négocier, à discuter. Et que c'est certainement pas le point le plus significatif de l'analyse que j'ai ressorti de ce groupe d'acteurs. C'est un point de détail sur à peu près, je sais pas, sur plus de 1500 pages d'analyse. Mais effectivement, je comprends que ça attire votre attention et qu'on passe du temps là-dessus. Mais pour moi, c'est clairement pas le plus significatif. C'est une ligne sur une cartographie des controverses qui en fait 400 pages.
Alors, nous n'allons pas nous y appesantir. Comment voyez-vous, selon vos recherches, une esquisse d'ébauche de sortie de crise?
Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le résultat le plus significatif, c'est le résultat de la recherche, c'est que le problème a toujours été présenté comme un problème fermé, alors qu'il s'agit d'un problème ouvert. Parce que justement, sur les points qui sont importants par rapport à cette recherche...
Ici, dans le sens, Ahmed Sfaxi, pour que je vous comprenne, c'est-à-dire que le problème... selon ce que vous nous avez dit à l'instant, est fermé au sens où il ne peut pas donner de solution, alors que si on l'ouvre, on peut le résoudre.
Tout à fait.
On n'est pas dans le cas que j'ai cité tout à l'heure des sciences dites exactes.
Tout à fait. Parce que finalement, les deux groupes d'acteurs sont d'accord sur la plupart des points. Il y a enrôlement, il y a un réseau de problèmes sur la lutte contre l'obscurantisme, la sécurité intérieure.
Sécurité intérieure de l'État.
Tout à fait. Les valeurs de la République, la France. Il y avait, si je me souviens bien, il y a eu une époque, une adhésion à un moment pendant la guerre en Irak, il y a eu une mobilisation où les gens de... À l'époque, c'était bien l'UOIF qui avait répondu négativement à une tentative étrangère de déstabilisation du pays, qui avait bien affirmé son appartenance française et son soutien au pouvoir public.
Oui, à ma connaissance, il s'agissait de la première rentrée, donc celle de septembre 2004, suite au vote de la loi dite d'interdiction des signes ostentatoires, ostensibles dans les établissements scolaires publics, celle du 15 mars 2004. Et donc, il y avait des manifestations qui étaient prévues pour empêcher la rentrée scolaire. Cette rentrée était concomitante avec la prise d'otage et en otage de deux de nos compatriotes, Christian Chenot et Georges Malbruno. Et à ce sujet, l'UOIF avait appelé à interdire, à ne pas manifester, mais plutôt de montrer la solidarité pour les deux otages pris à Bagdad ou ailleurs en Irak.
Merci. Parce que ces détails d'actualité, c'est quelque chose qui est pour moi un petit peu lointain et je vous avoue que je ne suis pas très au fait en général.
Non, je vous en prie.
Par contre, là où ça devenait pour moi... beaucoup plus parlant, c'était par rapport à la reconnaissance professionnelle, par rapport à la certification, par rapport à l'émancipation en termes de salariat et des associations, des présidents d'associations, l'émancipation des imams, leur protection sociale, tous ces éléments-là. Et là, je reviens sur ce terme un petit peu abscon, ce réseau de problèmes.
Mais qui est propre à votre recherche, ça fait partie du vocabulaire.
C'est du vocabulaire de sociologie de la traduction. Donc, j'ai tous ces éléments-là où finalement, je retrouve en fait des points où il y a un accord entre les différents groupes d'acteurs et qui fait que on a quelque chose qui se présente comme un éventail de possibilités, de discussions, de solutions possibles à partir du moment où on donne les outils de langage, d'argumentation aux imams. Donc là, effectivement, ça veut dire développement de compétences, formation à l'argumentation, logico-technique, voire politique. On ne dit pas éduquer ou former à faire de la politique, mais éduquer aux politiques, c'est-à-dire éduquer à l'argumentation pour pouvoir argumenter de façon rationnelle et justement pouvoir avancer. Éduquer à être raisonnable pour pouvoir justement, alors pour reprendre le terme d'Habermas, avancer vers une éducation à l'éthique de la prudence, à une société communicationnelle, et pouvoir remettre les différents acteurs autour de la table et construire quelque chose, arriver à faire des compromis.
Là, nous sommes en tout cas en théorie, mais vous essayez de mettre en pratique toute cette théorie. Ahmed Sfaxi, vous êtes praticien-chercheur, vous nous avez parlé de la problématisation de la formation des imams en France. Si vous avez l'amabilité de revenir nous expliquer davantage et surtout le résultat de vos travaux et à quoi ont-ils abouti, nous vous en saurions gré. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et aujourd'hui nous avons parlé donc de la formation des imams. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée par Valérie Lavalard et la réalisation est assurée par Nathalie Sall.
Yoktur olma aparma bu tamaşaya meni Thank you.